costaud, velu et colérique, c'est en 1981 qu'apparaît pour la première fois sur les bornes d'arcade la première mascotte de jeux vidéo de Nintendo. Car oui, leur premier personnage emblématique est avant tout un colossal Big Boss, un méchant intuable et irascible. La mascotte est... Donkey Kong ! Costaud, car il est capable de tordre des échafaudages en fer à béton, soulever sans souci des barils pleins en épaulés jetés et ferrer dans les 3 mètres de haut. Velu, car il est, et un poil soupaulé. Et colérique, car très jaloux de la petite amie d'un ouvrier du chantier, au point de rejouer l'enlèvement des Sabines. Il va donner son nom à un jeu d'arcade qui sera un gros carton, car la borne Donkey Kong va envahir les États-Unis et l'Europe, permettant de recycler la borne de shoot'em up Radarscope, qui n'a pas réussi à séduire les exploitants de salles d'arcade. Et pourtant, à peine dans les catalogues des distributeurs, sa carrière semble compromise avec un risque de procès pour parasitisme, King Kong venant d'être ressuscité par la Paramount en 1975 avec Jeff Bridges et Jessica Lange.
King Kong, a fantastic adventure.
Donc, Shigeru Miyamoto, le créateur de Donkey Kong, va le baptiser d'un nom proche, sauf qu'il va faire une erreur de traduction entre le japonais et l'anglais, ce que l'on appelle de l'angriche. À l'époque, il est persuadé que Donkey veut dire têtu, il va donc l'appeler Donkey Kong, le roi des ânes. Dommage, à une lettre près, il l'aurait eu Monkey Kong, le roi des singes. Malgré le fou rire de l'équipe de Nintendo of America, le nom va rester. Oui, Donkey Kong est le méchant qui donne son titre au nom du jeu. Sa mission sera d'arrêter des hordes de charpentiers qui s'aventurent sur des échafaudages fragilisés au mépris du danger puisque portant une casquette et non pas un casque de chantier BTP certifié NF-EN-397. Tout ça parce que le grand singe était pris de la lady qui l'a emmené pour un dîner aux chandelles. De force sur la terrasse en haut, jaloux comme un pou de l'amour de la belle dame pour l'ouvrier moustachu Jumpman. La borne d'arcade cartonnant, le secteur de l'ordinateur familial et de la console de jeu vont démarcher Nintendo pour adapter le dit jeu. Car en 1981, Nintendo n'a pas encore sorti de console de jeu de salon à cartouche, et encore le mot « adaptation » est très gentil vu le fossé qu'il y a entre la borne d'arcade et les sympathiques petits micros 8 bits. C'est donc en cartouche pour ColecoVision et Atari 2600 que le géant entra dans les foyers, suivi par de multiples adaptations sur les micros de l'époque. Nintendo fera de son côté une adaptation catchy sur Game & Watch qui reprend la mécanique du premier jeu du niveau d'arcade, une console de poche luxueuse à double écran, mais surtout la première console Nintendo à proposer le D-pad, la croix directionnelle signature des manettes Nintendo. Mais les studios Universal n'apprécièrent pas cette création parasite de leur licence King Kong, et comme aux États-Unis, tout finit par des procès, ce fut le départ de longues procédures judiciaires, toutes gagnées par Nintendo, car le nom de King Kong n'appartenait pas à Universal. Et ça, c'est suite à un procès initié par Universal eux-mêmes concernant le film de 1975, les opposants à Paramount, RKO et les héritiers de Marianne Cooper, créateur originel du personnage. Oups. Une longue procédure menée par l'avocat américain de Nintendo, John Kirby, dont Nintendo aurait voulu lui rendre hommage en donnant le nom de Kirby à l'un de ses personnages. L'ennemi de Donkey Kong, Jumpman, obtiendra sa carte verte sous le nom de Mario avec son frère Luigi, qui montèrent une PME de plomberie. Ils officièrent dans le royaume champignon avec une tenue plus casual, et Mario fera chavirer le cœur de la princesse Peach. Ce qui est à peu près aussi improbable qu'un roi de France devienne serrurier ou qu'un prince british épouse une actrice d'une série américaine mineure. Mais je m'égare aux gorilles. Donkey Kong va malheureusement se retrouver au chômage, le créneau de la demoiselle en détresse lui ayant été ravi dans Super Mario Bros. Par Bowser, tortue dinosaure du type Kaiju Koopa, si j'en crois la classification de l'inné. Il retrouvera un emploi après un stage qualifiant de l'ANPE, le pôle emploi de l'époque, habillé d'une cravate, mais encombré de son gamin venu en stage d'observation de 3e avec une casquette de rappeur. C'est Kevin Bayliss qui a créé le style de jeu Donkey Kong Country sur Super NES pour le compte du studio Rare. Ces sprites ne sont pas dessinés mais rendus et animés en 3D sur une station Silicon Graphics. Résultat, un look et une fluidité exceptionnelle pour l'époque et une notoriété qui permettra à Donkey Kong de décrocher un poste de speakerine sur France 2.
Vous êtes sur Sega TV.
Donkey Kong continuera sa vie vidéoludique avec Donkey Kong 64, Donkey Kong Konga, Donkey Kong Jungle Beat et j'en passe. Il tape sur des congas, ça agace le voisin. Il tape sur des congas et agace le voisin. La borne d'arcade originale fut maintes fois émulée ou réécrite, mais ce n'est qu'en 2018 que Nintendo proposera une version officielle, réellement basée sur le logiciel de la borne d'arcade. C'était du temps où Mario était charpentier, Donkey Kong ne portait pas encore de cravate et n'avait pas encore suivi des stages d'anger management pour sa reconversion professionnelle. Est-ce que le 22e niveau est toujours le kill screen du jeu ? Ça, c'est à vous de le découvrir. Tout comme l'excellent documentaire The King of Kong, narrant l'impitoyable concurrence entre rétro gamers américains pour obtenir le high score absolu sur cette borne d'arcade. Car le vrai ennemi de Donkey Kong, ce sont ces acharnés qui depuis 40 ans tentent d'obtenir le score parfait à coup d'équations, de réflexes au centième de seconde et de tricheries éhontées. Tu m'étonnes que le grand singe soit un poil énervé.